Ce matin, Jean-Alain Delpech est à Somain pour porter la parole là-bas, l'église baptiste. Et la semaine prochaine, ce sera moi. Et je serai là, par contre, le 2 août. Voilà, je reviendrai. Mais priez aussi pour les frères et sœurs là-bas et pour un pasteur qui puisse venir là-bas. Et ce matin, nous allons donc ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Deuxième lettre aux Corinthiens et chapitre 4. À partir du verset 5, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et ce matin, j'aimerais parler de la résilience chrétienne. Vous avez peut-être entendu ce mot un peu moderne et nouveau. La résilience, c'est cette capacité de surmonter les difficultés, les détresses, les angoisses, et de s'en sortir victorieux. Et ici, dans ce témoignage de l'apôtre Paul du 1er siècle, eh bien, on voit comment il avait surmonté tout ce qu'il vivait. Il dit, on est persécuté, mais pas abattu. On est abandonné, mais pas perdu. On est dans la détresse, mais pas dans le désespoir. On voit qu'ils ont énormément souffert à cause de leur témoignage, mais ils n'ont jamais été défaits, jamais été vaincus, jamais été complètement brisés, détruits. Ils ont toujours été vainqueurs, plus que vainqueurs, comme il dit, malgré les épreuves. Et c'est vrai, quand on lit un peu le livre des Actes et aussi la deuxième épître aux Corinthiens, on voit comment ils ont été. Paul a été lapidé, c'est-à-dire il a reçu des pierres par des gens. Il a été laissé pour mort. Il a été presque lynché à Éphèse parce que, en prêchant Jésus-Christ, il faisait diminuer le commerce de la Diane des Éphésiens. C'était ce temple de Diane avec des statues. Il y avait plein de commerçants, exactement comme à Lourdes aujourd'hui. Et le commerce diminuait tellement qu'ils sont allés chercher Paul pour l'éliminer. Et il a failli mourir vraiment ce jour-là. Il a été lynché par la foule. Heureusement, Dieu l'a sauvé au dernier moment. Il a été dans un naufrage. Il a été dans les chaînes. Il a eu faim. Il a eu vraiment des choses très, très difficiles. Il a été seul dans sa prison. Et à la fin de son ministère et de sa vie, il y a plusieurs frères dans le ministère, plusieurs missionnaires qui l'ont abandonné, qui l'ont trahi. Avec tout ça, Paul ne s'est pas découragé plus qu'il ne fallait et il a surmonté. Et Dieu veut qu'on soit aussi comme ça. Nous n'avons pas à souffrir les mêmes choses ici en France, mais nous avons tous des difficultés, des tribulations, comme dit la Bible. Et il y a des réponses dans ce passage et dans la parole de Dieu lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes en grande difficulté. Ici, les mots qu'il emploie sont forts. Ici, j'ai la version parole vivante, qui est une paraphrase du Nouveau Testament par Alfred Kuhn. Il dit « traqué et opprimé de tous côtés, et cependant jamais subjugué par la peur, fréquemment désemparé, mais jamais découragé. Souvent, nous sommes perplexes, nous ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais pas le désespoir. » Et c'est vraiment fort, cette idée qu'ils sont complètement parfois il n'y a plus de solution, ils sont totalement cernés, mais il y a toujours en fait une solution que Dieu dévoile au dernier moment. Alors la première vérité qui est touchante, c'est ce verset où il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Et ça, c'est, voilà, c'est le verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Le seul récipient qui existait au 1er siècle, c'était le vase. Il y avait des vases pour l'usage vil et l'usage pour l'usage honorable. Il y avait des vases pour le vin, pour le parfum, là c'était le plus précieux. Et puis il y avait des vases eh bien, pour les déchets, pour les poubelles, etc. Et tout était vase, mais il y avait des vases en terre et des vases en or, en argent, en bronze, etc. Et il dit, nous, nous sommes des vases de terre. Il veut parler aussi de son corps. Hein? Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Qu'est-ce que ça donne comme vérité? C'est que ce qui est important dans notre vie, c'est Dieu, c'est pas nous. Et c'est ça qui donnait cette force aux apôtres et aux premiers chrétiens. C'était pas pour eux, c'était pour Christ. Il dit, nous, nous sommes des vases de terre, nous portons une grande lumière, une lumière extraordinaire, c'est Jésus-Christ, c'est le salut, mais nous, nous sommes des vases de terre. Et ce n'est pas facile à saisir parce qu'en portant une grande lumière, on serait tenté de dire, je suis une grande lumière, n'est-ce pas? Et il y a des milieux évangéliques où, un peu sectaires où on prêche cette idée, vous êtes des dieux, vous êtes les enfants du roi. Alors vous devez vous comporter comme tel, vous devez commander aux esprits, aux maladies. Et on donne un faux message à ces chrétiens qui se prennent pour des demi-dieux parce qu'ils ont été sauvés. Mais nous avons été rachetés par la grâce. Nous étions pécheurs, perdus, et le Seigneur nous a sauvés, nous a donné son esprit, nous a lavés. C'est vrai, on a tellement de merveilleuses choses, mais nous restons des vases de terre. Et nous devons porter cette lumière et pour qu'elle brille le plus possible, il faut que nous, on soit cachés. Si on se met trop en avant, on ne voit plus la lumière parce qu'on voit notre apparence. Et c'est ce qui peut être encourageant dans la difficulté, c'est de se dire « je suis un vase de terre ». Donc un vase de terre, il va en baver, il va être cogné, il va être ébréché, notre corps est fragile. On va avoir des moments difficiles, on va vieillir, on va tomber malade. Tout cela va nous arriver un jour ou l'autre. Mais nous devons nous rappeler que nous portons une lumière extraordinaire. C'est Dieu qui est grand. C'est Christ qui est important. C'est le message, l'évangile, c'est ça qui est extraordinaire, qui est important pour les gens, pour la vie éternelle. Ce que je suis dans ce monde, ma place dans la société, si je suis connu ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que le Seigneur soit connu dans ma vie. Il y a des grands missionnaires qui sont totalement inconnus. Et ils auront certainement beaucoup de couronnes dans l'éternité, mais on n'en a pas vraiment entendu parler sur Terre. Il n'y a pas eu d'émissions de télévision, il n'y a pas eu de livres sur eux. Ils étaient des hommes et des femmes obscurs, si on peut dire. Ils ont fait un travail admirable de consécration, de dénégation envers des peuples qui ne les accueillaient pas avec joie ou avec gentillesse. Et pourtant, ils ont fait ce travail avec fidélité parce que Christ était plus important que leur vie. Et c'est pareil pour les apôtres. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit « Nous sommes les balayures du monde ». Et les balayures, le mot qu'il emploie, c'est encore plus bas que le déchet lui-même. Vous avez par exemple dans la pomme de terre, vous épluchez la pomme de terre. Bien, l'épluchure peut être utilisée. Hein. Aujourd'hui, c'est la mode d'utiliser les épluchures de légumes, hein, de ne rien perdre. Même les grands cuisiniers font ça. Ils utilisent les épluchures. Mais là, les balayures, c'est en dessous de l'épluchure. C'est quelque chose qui est totalement à jeter, qui ne sert à rien. Et Paul dit, nous, les apôtres, nous sommes les balayures. On a cette image que les apôtres, c'était des grands personnages avec des chapeaux et des vêtements. Ils étaient là, bonjour. Mais les apôtres, ils étaient mal vus. Parce qu'ils portaient le nom de Christ, parce qu'ils portaient l'évangile. Pour les Romains, c'était une obscure secte juive qu'il fallait réprimer à mort. Et même avec les autres églises, il y avait des conflits. Paul a été critiqué. On voit, si on lit 2 Corinthiens, combien de fois il a été critiqué. On a dit, mais oui, mais Paul, en fait, ce n'est pas un des 12, donc ce n'est pas un vrai apôtre. Et puis Paul, il cherche la gloire, regarde, il veut de l'argent, c'est un escroc. Il a dû se défendre, il a dû dire, mais regardez, non, je n'ai jamais pris d'argent à personne. Et la deuxième épître aux Corinthiens est là pour nous dire, justement, cette défense. Hein. Mais face au monde, il ne se défendait pas. Il dit, je suis une balayure. C'est comme ça, je l'accepte parce que je le fais pour Christ. Christ a été rejeté comme le pire des hommes. Hein. Crucifié, c'était pour la racaille, pour la personne la plus vile, pour les pires criminels qui n'étaient même pas romains. Les citoyens romains n'étaient jamais crucifiés. Ils étaient décapités. C'est pas beaucoup mieux, hein, au final. Mais la crucifixion avait ce côté honteux. Hein. Vous étiez exposés, nus, sur cette croix à souffrir pendant des heures et des jours parfois. Et Jésus a accepté ça, lui le Seigneur. Et nous, eh bien, nous sommes des vases de terre. Il faut accepter qu'il y ait des épreuves, des persécutions, des détresses. La deuxième vérité, c'est que Dieu a toujours une solution. Hein. Il dit, on est au bord du gouffre, mais on n'est pas désespéré. On est abandonné, mais on n'est pas perdu. Il y a toujours une sortie avec Dieu. Et vous connaissez certainement ce verset de 1 Corinthiens 10, 13. Est-ce que quelqu'un le connaît en entendant la référence comme ça? Qui n'ait été humaine, mais avec l'épreuve. Voilà, Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Et même si le contexte, ça parle plutôt de la tentation, puisque c'est le même mot en grec, sortir de la tentation, mais il y a aussi quand même l'idée de l'épreuve. C'est-à-dire, quand nous sommes éprouvés, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Mais il faut attendre la sortie. C'est comme dans le tunnel, vous êtes dans le noir et c'est un peu angoissant. Vous dites, mais quand est-ce que ce tunnel va se terminer? Et il faut attendre, par la foi, que le Seigneur vous montre la sortie. Et là, il y a cette petite lumière au bout. Ah, je vois la sortie. L'épreuve a son rôle dans notre vie. Et il faut attendre le moment où Dieu va nous en faire sortir. Parce que c'est Dieu qui nous y a fait entrer. C'est Dieu qui nous fait rentrer dans l'épreuve pour éprouver notre foi, pour nous fortifier. Vous dites, mais comment on est fortifié quand on a une épreuve? Ce n'est pas possible, c'est l'inverse. Quand on a une épreuve, on se sent faible, on se sent démuni. Oui, et c'est ça qui nous fortifie. Parce qu'en se sentant faible, on va s'appuyer plus sur le Seigneur. Paul a écrit, hein, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et on pourrait dire l'inverse, bien qu'il ne l'ait pas écrit, c'est quand je suis fort par moi-même, hein, dans ma propre force, dans ma propre justice, dans mes propres capacités, que je suis faible. Parce que face à Satan, qui est un ennemi rusé, hein, celui qui se croit quelqu'un, eh bien, il va tomber rapidement. Celui qui est pris par l'orgueil, il est au bord de la chute. Mais celui qui est humble, celui qui compte sur le Seigneur, qui marche par la foi, celui-là, il est fort dans le Seigneur. Et quand on est affaibli par l'épreuve, on dit, mais Seigneur, regarde, j'arrive plus même à lire ma Bible, à prier, je sais plus où j'en suis, cette épreuve est dure. J'apprends une leçon, là, dans cette épreuve. Et j'apprends que le Seigneur est avec moi quand même, et qu'au bout de l'épreuve, il y a un moyen d'en sortir. À moi de le chercher, à moi d'aller vers Dieu. Seigneur, montre-moi la sortie. Le chrétien a toujours un appui extraordinaire qui fait qu'il est à un autre niveau, quelque part, dans la vie. Ce sont les promesses de Dieu. Avec les promesses de Dieu, il n'y a aucune épreuve qui est trop difficile. Il n'y a aucune chose qui est impossible. La mort même est vaincue. S'il y a une épreuve qui touche tout le monde, c'est la mort. Eh bien, le chrétien est victorieux par la foi en Jésus-Christ, par la promesse. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il passe par la mort physique, il vit éternellement. Nous avons ces promesses extraordinaires de Dieu. Il y avait cette famille hollandaise pendant la Deuxième Guerre mondiale qui a accueilli des Juifs. Et un jour, les nazis s'en sont rendus compte et ils ont fait une descente dans leur maison et ils les ont tous arrêtés. C'est la famille Ten Boom. que certains connaîtront peut-être. Et il y a deux sœurs, Cori et sa sœur, qui ont été envoyées dans un camp de concentration pour femmes à Ravensbrück. Et là, elles ont passé plusieurs mois. Sa sœur est morte dans ce camp. Le taux de mortalité était évidemment très élevé. Il y avait les personnes qui étaient exécutées, qui étaient brûlées, hein, qui passaient au four crématoire, mais il y avait aussi la mort de faim, la mort de maladie. On ne leur donnait pas assez à manger. Elles devaient travailler dans le froid, dans la chaleur. Et Corrie ten Boom a écrit, quelques années après, avec beaucoup d'émotion, ce qu'elle a vécu dans ce camp, même si c'est presque indicible, hein, tellement c'est horrible. Et elle dit avec ma sœur, elle dit c'est ma sœur qui m'a soutenue. Parce que nous, on connaît Corrie ten Boom parce qu'elle a survécu. Elle a fait des conférences, elle a écrit des livres, il y a eu un film sur sa vie. Corrie ten Boom, c'est elle qui est connue. Mais en réalité, l'héroïne de la foi, c'est sa sœur. Mais elle, comme elle est morte dans le camp, on n'a pas trop entendu parler. Mais c'est elle qui a soutenu Corrie. Et elles avaient des pages de la Bible, et tous les jours, elles lisaient la Bible avec les camarades de chambre, et elles parlaient du Seigneur. Elles avaient faim, elles avaient mal, elles étaient malades, il y avait des mourantes partout autour d'elles. Mais elles disaient, nous, on était un peu sur un nuage quand on lisait la Bible. Et c'est le Seigneur et ses promesses dans la Bible qui nous ont fait tenir le coup, moralement, bien sûr. Et elle a pu être sauvée, et elle n'oubliera jamais la fidélité de Dieu. Elle dit, Dieu ne nous a jamais abandonnés dans cette terrible épreuve. Alors nous ne vivons pas dans un camp de concentration. Hein. Nos épreuves à côté, c'est un petit peu de la rigolade, mais c'est quand même des épreuves que Dieu a préparées pour nous. Et nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Dans l'épreuve, parfois, on ne voit plus clair. C'est un peu comme un bateau qui est perdu dans le brouillard. Vous n'avez plus rien, il n'y a plus de repères, vous ne savez plus où vous en êtes, s'il y a des écueils qui vont être là, ou comment retourner à la terre, vous ne savez plus. Mais il y a les promesses de Dieu, il y a la boussole, il y a le compas, il y a la carte. Aujourd'hui, il y a le GPS, mais c'est trop facile ça. Et nous avons aujourd'hui la Bible, nous avons le Saint-Esprit. Même si vous êtes un peu perdu dans votre épreuve, un peu décontenancé, même beaucoup, rappelez-vous des promesses de Dieu. J'aimerais vous lire à nouveau Lamentations 3, parce que c'est le passage, un des passages les plus encourageants de la Bible. Lamentations de Jérémie, hein, c'est après le prophète Jérémie. Il se lamente sur le jugement de Dieu sur Israël. Et il est touché aussi, hein, physiquement et moralement et spirituellement par tout ce qui arrive. Et je vais lire Lamentations 3 à partir du verset 18. « J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » C'est un prophète qui écrit ça. Hein? « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Passage extraordinaire, c'est de la littérature antique inspirée, extraordinaire. Il dit, mon âme est abattue, je vois plus rien, je n'ai plus d'espérance, mais je vais repasser en mon cœur. Et c'est mon épouse, hein, qui dit, souvent quand je fais du repassage, j'aime bien repasser les promesses de Dieu, parce que quand on repasse, on peut réfléchir. Et elle dit, je repasse les choses du Seigneur. Et on a besoin de repasser dans nos cœurs que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu est bon pour ceux qui espèrent, qui le cherchent. C'est ça la foi. Et si vous êtes en détresse, si vous êtes un peu comme Jérémie, cherchez l'Éternel, repassez ces choses. Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais, tes promesses sont vraies. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ses promesses ? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu, avec l'épreuve, préparera le moyen d'en sortir. Tout ça, ce sont des promesses. Et il y en a des centaines comme ça pour nous dans la Bible. Il y en a plein dans les psaumes. Il y en a plein dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Saisissons les promesses comme appui. Le voyage du pèlerin est un livre que j'aime beaucoup. Cette allégorie de la vie chrétienne écrite par John Bunyan en prison pour sa foi. Et un moment dans cette allégorie, chrétien va dans un terrain très très dangereux. C'est le territoire du géant du désespoir. Et là, il y a ce géant qui torture, qui martyrise tout le monde qui passe et il les amène au désespoir. Hein, c'est le géant du désespoir. Donc il trouve chrétien et il le prend, comme c'est un géant, chrétien ne peut pas résister, et il l'enferme dans le donjon du doute. Hein, alors vous voyez que l'allégorie à chaque fois, hein, le géant du désespoir, le donjon du doute. Et nous, des fois, hein, nous sommes face au géant du désespoir. C'est-à-dire, on a des angoisses, on a des frayeurs qui sont plus fortes que nous. C'est des géants, on dit, mais comment je vais affronter ça? Je ne peux pas. Et on est emporté par ces angoisses et ces frayeurs et ces craintes. Et on est enfermé dans le donjon du doute. Et là, chrétien commence à désespérer. Il se dit, comment vais-je sortir de ce donjon? C'est pas possible. Et il y a la porte, elle est fermée à clé, et il est là, il y a des barreaux, il ne peut pas sortir. Et à un moment, il s'arrête et il prie, il dit, Seigneur, viens à mon secours, je suis prisonnier, il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Et il se rappelle de fouiller ses poches. Et donc, il fouille sa poche, et dans sa poche, il y a une clé. Et il se dit, qu'est-ce que cette clé fait là? Et c'est marqué promesse de Dieu. C'est la clé de la promesse. Alors il prend la clé et il essaye dans la serrure et elle ouvre la porte du donjon du doute et il s'échappe. Et il fuit le géant du désespoir. J'aime ces histoires parce qu'un enfant peut la comprendre, mais un adulte aussi peut la comprendre. La clé, elle était dans sa poche. Quand nous sommes dans le désespoir, dans l'épreuve, dans la difficulté, la clé, elle est dans notre poche, elle est dans notre Bible. Elle est là, à disposition. On n'a pas à pleurer des semaines, à jeûner, je ne sais pas quoi faire pour que Dieu réponde. Non, la promesse est déjà là. La sortie, la clé est déjà là. La clé des champs, hein, comme on dit. À nous de la saisir. Une autre vérité dans ce passage de 2 Corinthiens 4, il parle au verset 6 de la lumière. Il dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce n'est pas toujours très clair quand on le lit comme ça. Dieu, au commencement, a dit que la lumière soit et la lumière a brillé des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. La lumière, toujours victorieuse sur les ténèbres. Ça n'arrivera jamais que vous arriviez avec une lampe dans un lieu ténébreux, un lieu sombre, et que la lampe ne puisse pas éclairer. Parce que la lumière, ce sont des photons, ce sont des atomes, hein, alors que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Donc il suffit que vous mettiez la lumière pour que la lumière se fasse. Et c'est Dieu qui a ordonné tout cela comme ça. Et la lumière dans nos cœurs, là il dit la lumière brille dans nos cœurs. C'est quoi? C'est la lumière de l'évangile, la lumière du salut. C'est Christ en nous. Lorsque nous avons cru, le Seigneur Jésus est venu dans notre vie. Il est la lumière du monde et il brille. Il doit se voir dans nos yeux, il doit se voir dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes. Et cette lumière, elle resplendit autour de nous. Et elle permet de faire connaître Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas. Et beaucoup de gens croient en un Dieu, mais ce n'est pas clair. Hein. Il y a différents dieux. Il y a Allah, il y a Yahvé, hein, il y a Bouddha, il y a Vishnu, hein, etc. Mais Christ, Jésus-Christ, a révélé qui est Dieu. C'est Jean hein, qui écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, est celui qui l'a fait connaître. » On peut connaître Dieu à travers Christ. Et nous, qui resplendissons de Jésus-Christ, normalement, nous devons faire connaître Dieu à ceux qui nous entourent. Cette vérité, c'est que même dans la pire épreuve, on peut encore être un témoignage. On peut encore briller du Seigneur. Parce qu'on se dit, oh, c'est quand ça va bien. Alors là, les gens, ils vont voir que Dieu me bénit et ils vont être touchés. Mais non, c'est quand ça va mal et que je reste avec le Seigneur, que je reste dans la joie, que les gens sont touchés. Parce qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est que cette résilience du chrétien ? Comment fait-il ? Comment fait-elle ? Pour se réjouir dans sa situation. Il y avait cette missionnaire aux Philippines, une femme célibataire, et elle travaillait dans une tribu en particulier pour traduire la Bible dans leur dialecte et puis pour leur annoncer l'Évangile. Et puis un jour, un matin, elle s'est levée avec des fortes douleurs et une grande faiblesse, des maux de tête, et elle n'arrivait presque pas à se lever. S'est dit, bon, ça doit être une fièvre ou quelque chose. Et puis ça a duré des jours, une semaine, et ça continuait. Finalement, elle est allée à l'hôpital et on lui a dit, madame, vous avez la polio, hein, la poliomyélite. À cette époque-là, il n'y avait pas de vaccin, etc. Beaucoup de gens ont été touchés par cette maladie qui vous rend un peu handicapé, même beaucoup parfois handicapé, et qui peut même vous tuer finalement. Et elle a dû aller à la capitale, Manille, pour être soignée, pour qu'on lui propose des médicaments, mais on lui a dit, vous ne pourrez plus être sur le terrain avec cette tribu, c'est fini. Vous allez être en chaise roulante, et on ne sait pas comment ça va se passer. Donc elle est retournée aux États-Unis, elle était américaine, et ça a été quand même un grand coup. Elle, sa vie, c'était la mission, sur le terrain avec cette tribu, elle aimait ces gens. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi moi j'ai la polio ? Pourquoi je ne peux pas rester ? Et elle est allée voir son bureau missionnaire. Ils ont dit, écoute, pour l'instant, tout ce qu'on peut te donner, c'est que tu vas envoyer des lettres. Tu vas mettre des timbres. Passionnant. Et puis, il y a ce magazine. On a un magazine pour les missionnaires, pour les encourager. Tu vas t'occuper un peu de ce magazine. Et finalement, elle a passé de nombreuses années de sa vie à s'occuper de ce magazine. Mais ce qui lui a donné la victoire dans tout ça, parce que ce n'était pas ce qu'elle avait prévu, elle dit, ce qui compte, c'est que je sois dans la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, c'est que je m'occupe d'un magazine, je vais m'occuper du mieux possible de ce magazine. Si la volonté de Dieu, c'est que j'aille annoncer l'Évangile directement aux gens, je vais le faire. Si c'est pour encourager les missionnaires, je vais encourager les missionnaires. Peu importe. Et quand elle a eu cette attitude, elle avait la victoire. Si elle avait lutté en disant, mais pourquoi ? Mais c'est pas juste ! Elle n'aurait jamais servi à rien. Elle a dit, je suis un vase de terre, le Seigneur a changé mes plans et il m'utilise autrement. Et en fait, cette femme est un encouragement encore aujourd'hui pour nous. C'est que nos plans ne sont pas ceux de Dieu, et parfois les plans de Dieu sont étonnants. Mais si on lui fait confiance, il y aura toujours une victoire. Si on dit, en toute occasion, à l'hôpital, elle a pu témoigner à beaucoup de gens. Elle dit, quand j'étais en centre de rééducation pendant des mois, il y avait autour de moi des gens qui avaient eu des accidents de voiture, des maladies graves, la polio aussi comme moi. Et ces gens, j'ai pu leur témoigner de la joie du Seigneur, de l'amour de Dieu. Ceux qui s'occupaient de nous, les infirmières, les kinés, tout ça, j'ai pu leur parler du Seigneur. Ils étaient étonnés que j'avais cette joie, cette paix. Partout on peut témoigner, en toute occasion, nous sommes appelés à faire connaître la lumière de Christ, à resplendir. Alors ce n'est pas parce que je suis éprouvé, malade, en difficulté, que je ne dois pas resplendir. Au contraire, on verra beaucoup plus le Seigneur dans cette situation. Je cite encore Paul, 2 Corinthiens 6, il donne des détails. « Nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, 2 Corinthiens 6, 4, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, hein, l'amour patient, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de la honte, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Ici, encore une fois, il ouvre son cœur. Vous avez vu au début ce qu'il dit, par quoi ils sont passés, les tribulations, les calamités, les détresses, les coups, la prison, les révoltes. Mais il dit, dans tout ça, comment il s'est comporté ? Avec bonté, avec patience, avec l'amour de Dieu, avec longanimité. Il aurait pu donner des coups de poing, il aurait pu prendre un bâton, une épée, se défendre quand on l'attaquait. Non, il s'est laissé faire pour le nom du Seigneur. Et non seulement il s'est laissé faire, mais il a béni ses ennemis. Il a apporté la bonne nouvelle à ses ennemis. Il le savait, lui, qui était un persécuteur de l'Église. Si on ne l'avait pas aimé, s'il n'y avait pas eu des chrétiens qui l'ont accueilli, Paul ne serait pas Paul, ne serait pas l'apôtre Paul. Il était ennemi de l'Église. Il persécutait à mort les chrétiens. Et Jésus, d'abord, l'a aimé, l'a sauvé. Et les chrétiens l'ont accueilli et l'ont fait grandir dans sa foi. Alors lui aussi, il veut faire pareil. Je terminerai ce matin avec le verset 9 de 2 Corinthiens 4. Il dit « persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu ». Et c'est le mot là, perdre, aller en enfer. C'est, nous ne sommes pas perdus pour l'éternité. On peut avoir beaucoup de difficultés dans la vie en tant que chrétien. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est pas perdu, c'est qu'on est sauvé pour l'éternité. On peut nous prendre tout, j'aime le cantique de Luther, qu'ils prennent tout chrétien, qu'ils prennent tout, mais ils ne peuvent pas prendre notre salut, notre vie éternelle. Voilà. Et beaucoup de chrétiens ont perdu énormément de biens matériels ou de leur liberté, leur vie, pour leur foi. Mais ils n'ont pas perdu la paix de Dieu, le salut de Dieu, la joie de Dieu. Nous possédons le salut. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une certitude. Nous possédons. Ce n'est pas qu'on espère un jour que Dieu nous sauvera peut-être. Non, Jésus-Christ est venu nous sauver. Et si nous avons cru en lui, nous sommes sauvés. C'est présent. Et c'est éternel. Est-ce que vous êtes sauvés ? Vous qui écoutez ce message ce matin, est-ce que vous avez l'assurance d'aller au ciel à votre mort, d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné? Il n'y a pas de trésor plus précieux que cela. Vous pouvez posséder tous les biens du monde. Le jour où vous arrivez au cimetière, vous êtes tout nu, vous êtes tout seul. Et là, il faut être sauvé. On n'est pas sauvé après la mort, la Bible dit c'est avant. Il faut se repentir avant, il faut se préparer à rencontrer Dieu. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu ? Est-ce que vous avez la vie éternelle ? Cette vie éternelle est un cadeau, un don gratuit. Vous n'avez pas à faire mille choses. Ce que Dieu demande, c'est la repentance. Reconnaître votre péché, votre rébellion contre Dieu, votre orgueil. L'abandonner. Et croire au sacrifice de Jésus-Christ, qui est mort, qui a payé votre dette. C'est ça le salut. C'est comme ça qu'on est sauvé. On se repent et on accepte, on croit. Et le Seigneur a promis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut invoquer le Seigneur ? Invoquer, c'est plus que demander, c'est vraiment dire au secours, Seigneur. Sauve-moi. On va s'incliner dans la prière. Puis, dans votre cœur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Je suis mauvais, je suis coupable, je suis perdu. Mais je crois que tu es venu me sauver par ton sacrifice, à ma place. Seigneur Jésus, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Si vous êtes déjà chrétien, mais que vous êtes dans les affres de l'épreuve, de la tentation, vous êtes un peu déboussolé, confiez-vous dans les promesses de Dieu. Rappelez-vous ses promesses, que sa compassion n'est pas à son terme, ses bontés ne sont pas épuisées. Vous ne pourrez jamais épuiser les bontés de Dieu. Elles sont infinies. Alors allez puiser dans le Seigneur. Priez-le, invoquez-le aussi. Recevez de sa part la paix et la joie, même si votre épreuve continue. Et notre Père, nous voulons te louer encore ce matin pour ta grande bonté, pour ta sagesse. Nous avons des plans pour notre vie, mais ton plan est le meilleur, parce que ton plan va nous faire grandir, va nous rendre meilleurs. Ton plan aussi va nous permettre de briller plus, pour que d'autres te connaissent. Seigneur, nous prions pour ces millions qui sont perdus, qui sont dans les ténèbres, qui n'ont pas de repères dans leur vie, qui tâtonnent. Nous prions que notre lumière puisse les aider à venir à toi. Donne-nous d'être des témoins fidèles, de partager l'évangile autour de nous, partout où nous sommes. Et même si nous sommes découragés ou fatigués ou éprouvés, renouvelle-nous, Seigneur, pour que nous soyons de lumière encore dans ces moments-là. Et merci, Seigneur, de soutenir mes frères et sœurs qui sont particulièrement éprouvés, qui peut-être ne sont pas là justement parce qu'ils sont malades ou en difficulté. Seigneur, veuille les encourager là où ils sont et vraiment qu'ils ressentent la communion de Christ avec nous. Et je le prie en son nom. Amen.